Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, paradis.
Ploum, ploum.
Bonjour à terre tous, vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM dans l'émission Un petit coin de paradis.
Un chaud coin de paradis.
C'est oui. Pas le paradis ça?
Bonjour Lydie, bonjour Nicolas.
Et Nicolas qui est avec nous.
Bonjour Lydie, bah oui. Bonjour Laurent.
Il vient nous aider aujourd'hui.
On est à la 90e quand même. Hein.
Wow. 90 émissions.
Je crois qu'on avait commencé en 2018.
Ça fait 7 ans?
Ben oui.
Mais non.
Bon, on a une période où on enregistrait moins.
Oui.
Mais c'est bien, on est content, on a toujours de la matière. Et on va commencer avec Nicolas Daquin qui chante avec Thomas Marouzet, La Poule. C'est un nouveau projet, enfin un nouveau projet.
Oui. Chanson pour enfants.
Chanson pour enfants. Et...
De 7 à 99 ans.
C'est ça, d'anciens enfants aussi, voilà. C'est ça qui est bien.
Justement, ma belle-mère vient d'avoir 99 ans.
C'est vrai.
C'est vrai.
Ah, Suzanne.
Mais on accepte plus ça.
Oui, aussi, oui. Les centenaires et tout.
Ouais. J'ai interviewé une centenaire de 102 ans il y a 3-4 jours.
Oui. C'est pas rien, hein?
Non, c'est pas
plus
rien.
Plus de 100 ans.
Ouais, bon, elle est bien sa tête.
On écoute la musique, donc La Poule, Nicolas Daquin.
C'était un matin, un cheval bien esselé qui avait perdu son cavalier soudain. Dit à la gallinacée, poule, oh ma poule, si pour toi tout roule, moi il me manque quelque chose dans le creux du dos. Moi il me manque quelque chose dans le creux du dos. Une poule regarda près de la fontaine, une vache bien triste ou nette, qui n'avait plus de pis de téton-tontaine, pour qu'on la traite ou la tête. Poule, oh ma poule, si pour toi tout roule, moi il me manque quelque chose sous mon ventre rond. Moi il me manque quelque chose sous mon ventre rond. Une poule remarqua près de la rivière un poisson chat échoué qui se lamentait car il était peu fier, ne pouvait plus respirer. Poule, oh ma poule, si pour toi tout roule, il lui manquait quelque chose, c'est l'eau du ruisseau. Il lui manquait quelque chose, c'est l'eau du ruisseau. Une poule aperçue, mais sans trop y croire, un animal affamé. Ma parole, on dirait un méchant renard. Je vais vite m'échapper. Poule, oh ma poule, si pour toi tout roule, moi il me manque quelque chose, tes cuisses de dur. Moi il me manque quelque chose, tes cuisses de dur. Thank you. Le renard mangea la poule, il avait faim et fut rassasié enfin. Notre histoire est terminée, oui c'est la fin. Qui fit le renard moins fin? Poule, ma poule, en moi tourne boule, le remords qui me tourmente, une boule au ventre, le remords qui me tourmente, une boule au ventre.
Bravo Nicolas, c'est chouette, hein.
Ouais, très chouette.
Un petit coin de poésie. C'est encore Baudelaire que j'ai choisi. Il y a quand même une œuvre assez riche. Et notamment La mort des amants. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envi leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot tout chargé d'adieux. Et plus tard, un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Donc, ça, c'est extrait des Fleurs du Mal de 1857. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une interprétation originale, inédite, de Nicolas Daquin, justement. Il a créé la musique et il va nous la chanter ici, dans le studio.
Le vrai Nicolas Daquin, ouais. Incroyable.
Quand tu veux, Nicolas.
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur les étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envi leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront de vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes.
Bravo!
Bravo!
Oh là là, quelle émotion!
Ah ouais. Ah, j'ai pris un peu aigu. Hein.
T'as pris haut, mais bon, pour un lundi matin, c'est pas mal. Hein.
Bravo! Une voix puissante, grave.
C'est une belle mélodie là qui monte et c'est chouette. Bah c'est...
Merci.
Il n'arrête pas de créer, Nicolas. Hein.
Non.
C'est bien, continue. Allez, on poursuit.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là.
Et voilà, c'est à toi, Laurent.
Aujourd'hui, je vous parle d'un, je ne peux pas le qualifier, de Jacques Canetti. Alors, je vais le lire en deux fois. Parce
oui,
que
il a fait
assez...
beaucoup de choses.
Nissim Jacques Canetti est né en Bulgarie en 1909. Ses parents sont tous deux d'ascendance séfarade. Son frère Elias Canetti est un écrivain d'expression allemande et prix Nobel de littérature. Son autre frère, Georges Canetti, est chercheur et professeur à l'Institut Pasteur, spécialiste de la tuberculose. Avec son frère Elias, Jacques passe sa prime jeunesse en Angleterre, puis fait ses études à Vienne, Francfort et Lausanne, avant d'immigrer en France en 1926, au moment de la montée du nazisme. De formation littéraire, doté d'une forte culture musicale, il parle 4 langues et joue du piano. Reçu à HEC en 1928, il découvre alors le music hall. Jacques Canetti est devenu un directeur artistique et producteur musical français, c'est le principal de son activité. En 1947, excellente année, il fonde le théâtre des Trois Baudets, qu'il dirige jusqu'en 1966. Découvreur de talent pour les firmes Polydor et Philips, Jacques Canetti est à l'origine de la carrière de nombreux artistes. Alors écoutez bien, artistes francophones, parmi lesquels notamment Édith Piaf, Félix Leclerc, Georges Brassens, Jacques Brel, Serge Gainsbourg et Jacques Higelin. Très féru de jazz, Jacques Canetti organise dès 1930 les premières tournées de jazz dans toutes les villes universitaires. Il est le premier à faire venir en France Louis Armstrong, Cab Calloway et Duke Ellington. En 1933, il a 24 ans, il arrive à convaincre Marlène Dietrich d'enregistrer son premier disque en français. La vie de promoteur des artistes de Jacques Canetti commence lorsque Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Radio Cité, lui confie la direction artistique de la station. Il crée des émissions qui demeurent encore aujourd'hui des classiques de la radio. Par exemple, le Music Hall des Jeunes, où il donne sa première chance à Édith Piaf, puis à Charles Trenet, alors jeune débutant en duo avec Johnny Hess. Il tient, Jacques, la première émission régulière de jazz à la radio. Il compose et enregistre à la flûte à bec le premier jingle de pub, dont les anciens se souviennent Dop Dop Dop. Jacques Canetti invente le principe du radio-crochet. Il fait enregistrer à Édith Piaf ses 3 premiers disques chez Polydor, avec notamment Mon Légionnaire. Pendant la guerre, l'actrice Françoise Rosé l'aide à rejoindre la France libre. Il organise avec elle des tournées dans le sud de la France et il arrive en Afrique du Nord à la fin d'octobre 1942, au moment où les Américains viennent d'y débarquer. Il est nommé directeur de Radio Alger, qu'il rebaptise immédiatement Radio France. Alors ça, c'est assez coquet. Soupçonné d'être gaulliste, il quitte ses fonctions à la radio et se place dès 1943 aux côtés de René Capitan, le représentant du général de Gaulle. Jacques Canetti crée alors le théâtre des Trois Ânes et organise avec Pierre-Jean Vaillard, Georges Bernardet, Christian Webel et Lucienne Vernet, sa future épouse, des tournées qui les conduisent dans toute l'Afrique du Nord, où ils recueillent des fonds destinés au mouvement de résistance Combat. En 1947, de retour en France, il retrouve son poste de producteur chez Polydor. La même année, il ouvre une salle de spectacle. Il nomme cette salle Théâtre des Trois Baudets, en référence au Théâtre des Trois Ânes qu'il avait lui-même créé. Il a fait enregistrer les premiers disques d'Édith Piaf, Aznavour, Henri Salvador, Jacqueline François. Philips rachète Polydor, la première à signer chez Philips sera Juliette Gréco. C'est l'âge d'or de la chanson française. Plus d'une centaine d'artistes, musiciens, poètes, amuseurs, auteurs, comédiens vont commencer leur prodigieuse carrière chez Philips avec Jacques Canetti. Francis Lemarque, Félix Leclerc, Georges Brassens, Jacques Brel, Guy Béard, Boris Vian, Serge Gainsbourg, Jean-Roger Caussimon, Anne Sylvestre, Bobby Lapointe, Agnès Fontaine, Lenny Escudero, Catherine Sauvage, Juliette Gréco, Patachou, Jacqueline François, Marcel Amont, Philippe Clé. C'est fou, hein ?
C'est incroyable, ça.
Incroyable.
C'est moi qui me dis de passage Réjani, ouais.
Les frères Jacques y enregistreront des chansons de Jacques Prévert et les exercices de style de Raymond Queneau, que nous connaissons.
On passe toutes les semaines.
Des humoristes aussi, Pierre Dac, Francis Blanche, Fernand Reynaud, Robert Lamoureux, Raymond Devos, Darry Cole, Jean-Yann. Des musiciens y commencent leur carrière, notamment Michel Legrand, André Pop, Alain Goraguer. De retour des États-Unis en 1955, Jacques Canetti propose à Boris Vian d'écrire les premiers rocks français qui seront chantés par Henri Salvador, puis par Magali Noël sur des musiques de Michel Legrand et Alain Goraguer.
Pause musicale.
Pause musicale. Pont musical.
Si tu veux.
Ouais.
Je vais proposer Jacques Higelin, puisque tu l'as évoqué.
Oui.
Et une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « Tête en l'air ». Quelque chose assez rythmé. On écoute.
Tu n'as pas chanté « Tête en l'air », Nicolas ?
Non.
Non ? Non. Allons-y.
Dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour.
Belle chanson, non ?
Magnifique, original. On en revient à Jacques Canetti. Je voudrais ajouter à tous les artistes que j'ai cités deux noms, Serge Reggiani et Brigitte Fontaine, qui ont été aidé, chapeauté, découvert par Jacques Canetti. Il a organisé durant tous les étés, pour tous les artistes, ceux qu'il a découverts, mais pour d'autres artistes, les tournées Canetti. Il proposait des plateaux de 4 à 10 artistes dans les salles de province et dans les colonies françaises d'abord, théâtres municipaux, salles des fêtes, casinos, scènes de plein air, puis à travers le monde. École difficile au rythme effréné dans laquelle les jeunes artistes apprennent le métier de la scène, tandis que leurs aînés y rôdent leurs nouvelles chansons avant la rentrée parisienne. Il se rend ainsi aux États-Unis et au Japon avec Yves Montand et il organise les récitals de Maurice Chevalier. C'est pas rien quand même. Il a créé pour les disques Philips le catalogue de référence de la chanson française. Son flair incroyable est réputé et il devient une personne très influente et incontournable dans les métiers du spectacle. Il détecte tous les nouveaux talents pour Polydor, Philips et Fontana, avec la conviction qu'un artiste met parfois des années à percer. Ainsi, il s'obstine à sortir les premiers albums de Serge Gainsbourg à partir de 1958, convaincu de son talent malgré des ventes qui ne dépassent pas quelques centaines d'exemplaires. Les disques Jacques Canetti deviennent le premier label de disques français indépendant. Il convainc Jeanne Moreau, qui dans Jules et Jim de François Truffaut chante la chanson « Le tourbillon de la vie », il la convainc donc en 1963 d'enregistrer un disque de chansons de Serge Rezvani. Il persuade ensuite Serge Reggiani d'entrer en studio pour un disque de chansons de Boris Vian. Il fait enregistrer La voix humaine de Jean Cocteau à Simone Signoret. Par la suite, il est le premier à enregistrer Jacques Higelin, qui est alors un débutant de 24 ans, ainsi que, je l'ai dit, Brigitte Fontaine. Il produit et enregistre les disques de Simone Signoret, Brassens, Michel Simon, Cora Vauquer. Il crée les premières anthologies consacrées aux grands poètes de la chanson française, Boris Vian, Jacques Prévert. En 1997, il quitte le métier et meurt peu après. Il a dit de son métier, Jacques Canetti, « Directeur artistique n'est pas une activité mais un sport que je pratique passionnément. Le talent ne s'insuffle pas, mais il peut se détecter avec de la chance et de l'intuition. Je ne suis qu'un catalyseur et je donne de la confiance aux artistes, c'est épanouissant. »
Ah bah oui, c'est essentiel quand même. Bon, merci Laurent.
Plaisir, à votre service.
Nicolas, un petit mot à dire ?
Sinon que oui, c'est vrai, ça n'existe plus beaucoup, ça n'existe pas du tout ce métier de directeur artistique et de découvreur de talent. Pour moi, tu aurais découvert, Lydie.
Toi en premier, déjà.
Je me demande si Dutron n'a pas commencé sa carrière chez une maison de disques comme directeur artistique, justement.
Oui, et comme guitariste.
Et comme guitariste.
Ah oui, ouais. D'accord. Bon, alors justement, tu as parlé de Serge Reggiani et Nicolas proposait la chanson de Boris Vian qui s'appelle «
Arthur, où as-tu mis le corps ?»
cette chanson.
Tu la connais,
ouais. Ah ouais, je la connais bien. Il chante avec un faux accent.
Ouais,
Arthur, où as-tu mis le corps?
Ouais, c'est ça.
Bon, on écoute alors.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
« Sa cloche, c'est pas où il est passé. »
« Hein ? » Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur ?
Ben, je sais plus où l'ai foutu, le mec.
Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh.
Arthur, où t'as mis le corps?
S'écriaient les inspecteurs.
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur, réfléchis, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, il n'y a plus de preuves, hein? Hein, il n'y a plus de preuves.
On a écopé les uns, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes, on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui?
Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours, on lui demandait.
Arthur, il en est mort. Et on ne sait pas où il est passé. Ah, mince alors, Arthur, oui.
Allons, mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis? Hein? Dites-le à votre bon petit directeur. Hein?
Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cette Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à l'idée qu'ils se perdent. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne.
Arthur,
es-tu là?
Oui, le corps.
Arthur, où t'as mis ton corps?
Ben, j'ai plus de corps, le corps.
Arthur, as-tu du cœur?
Belote, les gars, rebelote et 10 de d'air.
Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur.
Excellent.
Ah oui,
excellent.
Je ne connaissais pas.
Tu ne connaissais pas, oui.
Quelle belle voix il a quand même. Ouais. Hein.
Puis en prenant différents accents et tout.
Quel comédien aussi. Ouais.
Très rythmé, oui.
Merci, Nicolas. Et on poursuit avec Nicolas, justement, et la chronique compliquément simple. Ah là là, on s'accroche.
Allez, c'est parti, la chronique à Dominique, compliquément simple, simplement compliqué. Pardon, je fais du bruit, hein, ça grince, mais ça fait partie du truc. Hein. Voilà, Alice Ali. Alice Ali et Ali Alice. Ce sont deux êtres, deux personnes singulières, artistes locaux dans un patelin, Madame Ali et Monsieur Alice. C'est marrant, hein, mais le prénom de la mère Ali, c'est Alice, tandis que celui du père Alice, c'est Ali. Non, c'est rigolo. C'est parce qu'on a sali Alice et Ali que je plaide leur cause. Je suis un peu leur avocat. On se connaît bien. L'une est Alice et l'autre Ali. Moi, je les appelle plutôt par leur prénom. C'est avec cette Alice, Ali, que je débute ainsi ce récit. Cette Alice, Alice, Ali dont il s'agit ici, s'agite ici à mes côtés en lisant le portrait que je fais d'elle, car elle conteste le fait que je la traite, comme elle dit, d'artiste. Je le reprécise. Alice porte un prénom qui est le nom de son amie Ali, dont le nom Alice se prononce comme le prénom Alice. Vous m'avez bien compris, vous me suivez tous là?
Oui. Absolument.
À part leur genre, elle et lui ont beaucoup de points communs en dehors du fait que leur nom et prénom se confondent. Le nom de l'une étant le prénom de l'autre, qui a comme prénom celui de l'autre. Ah, ça ne simplifie pas les repérages, auditivement parlant, s'entend. De qui part-on au juste? Un petit trou. Voilà, je continue mon récit. On les appelle autant par leur prénom que par leur nom d'artiste qu'ils se considèrent ne pas être. Figurez-vous que ces deux personnages et personnes âgées, passées 70 ans, ont d'autres points en commun. Ils sont moqués, pris en grippe, voire harcelés par certaines personnes qui les dénigrent. Certains qui n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux, comme le disait Jojo. Face à ça, ces deux s'allient. L'aide d'Alice à Ali et celle d'Alice à Alain. Oh là là, je me perds. Eh bien écoutez, je vous dirai la suite la prochaine fois. Ça va, ça
vous excellent, excellent. Il est doué. Ça évoque quand même Raymond Devos, ce jeu de mots. Hein,
ouais. Ah, c'est fort. Hein.
Ah ouais.
Très bien. Merci Dominique. Merci Nicolas.
J'avais entendu que Raymond Devos, dans sa très grande maison, il avait, je crois, 3 étages, et à chaque étage, il avait un bureau. Et l'idée, c'était qu'au moment où il avait une idée, il fallait qu'il puisse l'écrire immédiatement.
Voilà. Il n'y avait pas encore les portables.
Et voilà.
Ouais. Oui, il aurait pu le mettre dans le portable. Ouais. Mais oui, pourquoi il est né trop tôt?
Je propose une chanson de Jacques Brel, qui est un peu moins connue et qui n'est surtout pas de lui. Ça s'appelle « Place de la Contrescarpe ».
Ah, je ne connais pas.
Voilà, j'en reparle après.
Ah ouais, waouh.
Contrescarpe, les clochards dansent en rond. Place de la contrescarpe, ils claquent les talons. Ils ont les pieds gelés, les mains dans leurs poches trouées. Place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond. L'été, 4 arbres verts, 4 arbres noirs l'hiver. Tout autour des bistrons, bière fraîche ou vin chaud. Allez, je givre sur le toit des maisons et tourne le noir borgne, l'arabe et le breton. Et tourne le noir borgne, l'arabe et le breton. Place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond. Place de la contrescarpe, les clochards dansent en rond. Place de la contrescarpe, ils claquent les talons. Ils ont les pieds gelés, les mains dans leurs poches trouées. Place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond. La musique du vent, ce soir les fait danser. Et les derniers passants passent à pas presser. Puis le quart de la police, sans sirène ni klaxon, emballe sur leur clochard. Clochard, clocheton, privilégiez les pauvres, passons la nuit au violon. Mais place de la contrescarpe, d'autres clochards dorment en rond. Mais place de la contrescarpe, d'autres clochards dorment en rond.
Donc c'était une chanson écrite par René Fallet, en fait.
René Fallet, romancier et ami de Georges Brassens.
D'accord.
Et c'est lui qui écrivait toutes les chroniques sur les disques de Brassens. Chaque titre était...
Ah oui
était,
d'accord.
Oui, ils étaient vraiment potes.
Et donc là, ils disent que c'est un hommage à Jean-Pierre Suc. Bon. Dans une émission en 1965. Une émission réalisée par François Châtel, Chanson pour un ami.
Ah oui, le père de
Ah oui
Ah oui, oui.
De Philippe Châtel.
De Philippe Châtel.
Ouais. Ah, je savais pas, mais on en apprend des choses ici.
C'est comme ça qu'il a bien connu Brassens, ce chanteur.
Ah oui, oui, oui.
Et qu'il a réussi à le faire chanter dans sa comédie.
Émilie Jolie. Ouais, ouais. Ah oui, c'est chouette.
Oui, parce qu'il voulait Brassens, il voulait pas chanter, il voulait vendre ses chansons, enfin, oui, pour d'autres, quoi. Bah, et quelqu'un l'a persuadé un jour d'y aller, quoi.
Ah oui, au départ, il voulait pas chanter. Oui,
ouais, au départ. Ouais. Et alors, moi, j'en mets tous les matins dans mon café.
Du sucre.
Du sucre. Voilà. Sans me moquer du patronyme, c'est pas bien, mais voilà.
Dans l'Est, à une heure d'affluence, un type dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Tompleur Nichard, qui se veut méchant, comme il voit une place libre, se précipite dessus. 2 heures plus tard, je le rencontre, cours de Rome devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit : tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. Il lui montre où ? À l'échancrure. Et pourquoi ?
À toi, Nicolas.
Alors, tu devrais ajouter un bouton à ton par-dessus, lui a dit son ami. Je le rencontrai au milieu de la cour de Rome, après l'avoir quitté, se précipitant avec avidité vers une place assise. Il venait de protester contre la poussée d'un autre voyageur qui, disait-il, le bousculait chaque fois qu'il descendait quelqu'un. Ce jeune homme décharné était porteur d'un chapeau ridicule. Cela se passa sur la plateforme d'un S complet ce midi-là.
Pas mal, c'est à l'envers.
C'est rétrograde, il a voilà. commencé par la fin.
Sacré Raymond. Très bien, on continue. Chronique suivante.
Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message.
Je ne sais rien, mais je dirai tout.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Alors de quoi...
De quoi parle-nous, Laurent?
Tu nous parles de quoi, Laurent, aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous parle de l'avarice. Et pour rester dans mon sujet, j'ai fait très court. L'avarice n'est pas le nom d'une veine un peu bouchée qui se montre sur la jambe. Non, non, non. L'avarice, en un seul mot, vient du latin avarus, lui-même construit sur aver en ancien français, aver provenant de avere, qui veut dire désirer vivement, c'est-à-dire être avide.
D'accord.
Même si on est plein. Au sens figuré, un avare est quelqu'un qui ne donne pas facilement une chose ou qui en est très économe. Pour le christianisme, l'avarice est un des sept péchés capitaux que sont, écoutez bien, la paresse, donc l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure et l'orgueil. Ces péchés, selon les chrétiens, ne sont pas les plus graves, mais ils sont nommés capitaux parce que d'eux découlent les autres. Citons une définition du mot « péché ». Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Une définition d'avare, et par extension d'avarice, qui a de l'argent et refuse de le dépenser, quitte à se priver lui-même. Quelques synonymes d'avare, avaricieux, chiche, pingre, fesse-mathieu, gripsou, harpagon, parcimonieux, pixou, pince-maille, prête-ses-sous, radin, rapia, regardant. Au Québec, on a aussi séraphin et cheap. Les avares n'aiment pas dépenser et ils entassent. Victime de siligomanie.
Oui.
Les personnes atteintes de siligomanie, qui est une thésaurisation pathologique, ont toujours une telle difficulté à jeter ou à se séparer de leurs biens, au point que les objets s'accumulent et encombrent les espaces de vie jusqu'à les rendre invivables ou inaccessibles. La personne atteinte de siligomanie est généralement consciente de son trouble et peut éprouver de la souffrance face à l'encombrement, bien qu'elle ne parvienne pas à y remédier seule. Bref, l'avarice est parfois difficile à supporter pour l'entourage et certainement pour l'avare lui-même. À l'inverse, on peut aussi réfléchir, on pourra réfléchir, sur la générosité et se demander ce qui pousse le généreux à l'être. A-t-il besoin de se faire bien voir? A-t-il une sorte de pitié pour celui qui n'a pas? Et cette générosité fera l'objet d'une prochaine chronique.
Oh.
Et enlever, c'est peser.
D'accord, merci Laurent. Nicolas, un commentaire?
Non, j'écoute, je bois ses paroles.
Oui, j'ai fait court parce que, voilà, je l'ai dit, avare.
C'était un peu avare en mots.
Exactement, madame.
C'est ça.
Voilà.
Alors Nicolas a proposé une chanson de Charles Trenet, « Pété dette ».
Oui, c'est pas une des meilleures, mais le sujet est, en fait, j'ai cherché des thèmes, enfin des chansons qui parlaient de ce thème, et j'ai vraiment...
Oui, il n'y en a pas énormément.
Bah,
bon.
Même pas du tout, je n'avais pas trouvé.
Allez, on écoute Charles Trenet, P.T. Dette.
Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds. Chez lui venait faire la quête tous ses créanciers. Et pour fuir ses personnages qui le torturaient, Un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt. Au pied d'un arbre, il s'endormit. Mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Il se dit dans son sommeil, c'est la voix de ma conscience qui me poursuit et me surveille. Je vais à mon réveil rembourser ces braves amis qui m'ont fait confiance. Non plus jamais, je me le dis, je ne veux de crédit. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes. Allez, il y fut, fut tout de go. Quel souvenir, quelle belle journée, quand il régla tout, tout ce qu'il devait depuis des années, jusqu'au dernier sou. Il se défie même de sa chemise, bon, on peut se passer de ça. Dans les bois soufflait la brise, tout joyeux il y retourna. Sous le même arbre il s'étendit, alors le même oiseau vint se poser là tout près de lui, en répétant d'un air idiot. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Allez, allez, paye, paye tes dettes, mon vieux. Il faut payer toutes, toutes tes dettes. Paye, 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 paye. Dans l'instant même, il comprit que la voix de sa conscience n'était autre qu'un volatile, absurde et obstiné, qui répétait le même cri depuis sa naissance, sans savoir ce qu'il disait, quelle destinée. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, oh, assez, ou je vais te fracasser. Et c'est ce qu'il fit à l'oiseau. Le coup, il tordit. Et le lendemain, dans tous les magasins et auprès de tous ses copains, il fit des dettes, une, deux, il fit des dettes, ah ah, c'est mieux. Puis un soir, devenu vieux, très vieux, oh, il mourut, couvert de dettes. C'est immoral, cette chanson-là. Ah oui.
Ouais.
Si, si, elle est... C'est pas du meilleur Charles Trenet, mais c'est...
Ouais.
Ouais. Je suis d'accord.
Merci.
Je suis toujours d'accord avec Nicolas. J'ai lu ça, j'ai lu ça.
Je continue la lecture du livre « J'ai encore menti » de Gilles Le Gardinier. Je vous rappelle que Laura avait dû rendre le chat qu'elle avait gardé et vraiment, elle s'en remet pas. Le plus raisonnable serait sans doute de ne jamais s'attacher à personne. Comment peux-tu dire une chose pareille? Surtout toi. Tu réagis ainsi parce que tu es triste. Sa voix me fait du bien. J'ai végété jusqu'à notre appel. Une plante posée au milieu du désert qui attend désespérément l'averse. Quelqu'un avec qui partager, quelqu'un pour qui vous avez encore de l'importance, même quand vous ne valez plus rien. C'est peut-être ça, un couple, au moins un ami. Tu te rends compte dans quel état je suis? Tout ça pour un chat? Ce n'est pas un chat, mais quelqu'un que tu aimes. J'ai peur de ne pas être suffisamment forte pour affronter ce genre de situation. La vie est déjà assez rude comme ça. Si je suis brisée pour une minette, dans quel état serais-je si je devais être séparée de mon père, de mes frères ou de mes amis? Le risque de perdre ceux auxquels on tient leur donne aussi leur valeur. De toute façon, quel intérêt aurait la vie si on ne s'attachait à personne? En attendant, ça fait mal. Machinalement, je caresse la place où se tenait Cubix. C'est la première fois que je discute avec Raphaël sans qu'elle soit présente. Tu sais, cet après-midi, juste après lui avoir dit adieu, j'aurais voulu que tu sois là. Pour remplacer le chat? Dois-je y voir un sous-texte sur la façon dont tu envisages la vie avec un homme? Je te préviens, je ne sais pas ronronner. S'il te plaît, ne me taquine pas ce soir. Je vais faire un effort. Et voilà. Et on poursuit. Chronique suivante. Un chocoin de Parigi. Alors, une petite chanson en rapport avec ce que Nicolas avait chanté tout à l'heure. C'était la poule. Et c'est le Chot Glen.
En direct.
Chot Glen Cheto, une vraie peureuse. Elle se mucho dans les grains arpes. Ça vaut n'a ce que c'est d'être heureuse. Elle craigne tout dit qu'un l'attrape. J'ai peau une vie de busier cachant. Elle arrivait tôt chez ses vigines. Ceux qui sont tranquilles devant le cam. Mais qui finiront dans la cuisine. Mais qui finiront dans la cuisine. Chot Glen l'aime un jaune un gramin. Valomine elle trop au gourmande. Faut serrer 125 trop de grains. Juste un chopeux chez ce qu'elle demande. Un vrai modèle de discrétion. A vos appris à se débrouiller. Tout dit tout seul, pas de solution. Faut que sur elle, elle pouvait compter. Faut que sur elle, elle pouvait compter. Papa, pam, pam, papa, pam, 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 papa, pam, 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 papa, pam. Chot Glen se trouva un fin sauvé. Par amour, elle tira sa plan. Devant un coquetto à ringer. Qu'ils osent ses biosies un louchant. Mais l'étau tout un gentillesse. J'ai sûr sa vso plaisir à vivre. Inter les deux. Gramin de tendresse, Chot Glen créo de bio souvenir, Chot Glen créo de bio souvenir, Chot Glen les taubins amoureuses, elle s'arpose sous ses grains arpes, elle apprécie au bain d'être heureuse, et elle craigne au plus qu'un l'attrape. J'ai une pièce vide, busier cachard, elle n'invio plus toute chez Vigine. Ce qui est tout tranquille devant le cam, mais qu'ils ont fini dans la cuisine, mais qu'ils ont fini dans la cuisine. Côte, 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 côte.
Bravo Lydie.
Merci. Et maintenant une chanson sur le thème de l'avarice, justement. Comme j'en trouvais pas, ben j'en ai fait une.
C'est celle de la jambe.
Ça n'est pas sur la jambe qu'elle se voit, mais plutôt dans les mains. C'est même dans celle que l'on ne tend pas. En se disant humain. Non, ce n'est pas de la méchanceté, chacun son expérience. On ne peut pas se substituer, il faut saisir sa chance. Entasser la richesse, sans pour autant savoir partager, ni amour ni tendresse. Et ne vivent que pour accumuler. Si c'est vrai qu'il y a de grands fossés et même des précipices, car certains face à leur destinée feront des sacrifices. À ceux qui ont beaucoup de moyens, ne jetons pas la pierre. Mais à quoi bon vivre dans son coin? Sans être solidaire, entasser la richesse, sans pour autant savoir partager, ni amour ni tendresse, et ne vivre que pour accumuler. Je n'envie pas ceux qui ont cet art, coincés, névrosés, et je les plains même ces avares. Qui ne font que compter. Pourtant devant vous je fais ce don envers généreuse, car je veux leur offrir cette chanson donc qui me rend heureuse. Entasser la richesse sans pour autant savoir partager ni amour ni tendresse, et ne vivre que pour accumuler.
Bravo Lydie, bravo Lydie.
Merci, merci. Et on poursuit.
Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse, bien sûr. Et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. Et la maîtresse de séance, dans un habit ma foi saillant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison, où briller sans se consumer un genre de feu sans fumée. Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons d'eux, la bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids, faux aubussons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches ne devant pas le rivoire aux éléphants. Aux lueurs des fausses chandelles, enlevant ses fausses dentelles, elle a dit, mais ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre, simulateur, ces anges artificiels venus d'un faux septième ciel. La seule chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire, et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux, c'est mon penchant pour elle et mon gros point du côté du poumon. Quand amoureuse elle tomba d'un vrai marquis de Carabas, en l'occurrence Cupidon se conduisit en faux jeton. En véritable faux témoin, et Vénus aussi néanmoins. Ce serait sans doute mentir, par omission de ne pas dire que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur.
Nicolas, il est étonnant, il vient de me dire qu'il avait finalement fait une chanson sur ce thème, donc
incroyable.
Il sait même plus tout ce qu'il fait.
Hier soir, j'ai passé je ne sais pas combien de temps à chercher des chansons.
On écoute.
Alors, pardon, ça s'appelle Le Roi. Toi, tu es riche comme un roi, un empereur ou un pacha. T'as des milliards et des milliards d'euros, de yens et de dollars. Des châteaux, des hôtels partout, un train de vie qui écrase tout. Des domestiques et des laquais à quatre pattes sur ton parquet. Un jour ou l'autre, ça va craquer. Moi, je n'ai rien, pas même du pain à manger tous les jours. J'ai faim, pas de maison, de mur de pierre. Et je demeure à même la terre.
Toi tu possèdes et accumules tant de trésors et de pécules que pour tous les utiliser 10 000 vies il te faudrait, puis de pétrole, mine d'argent, tu pourrais nourrir tant de gens, guérir, soulager ton prochain, mais de lui tu es tellement loin que tu ne t'en préoccupes point. Moi je n'ai rien, pas même du pain à manger tous les jours, j'ai faim, pas de maison, de mur de pierre, et je demeure à même la terre. Tu grossis tellement, tu grossis, qu'on ne peut plus respirer ici. Tes reflux, tes refoulements, tes gaz et tes pots d'échappement, ton carrosse à 18 cylindres, ta couronne, tout ça coûte une blinde. La robe dont tu es paré, tes privilèges, ton précaré, carrément très exagéré. Moi je n'ai rien, pas même du pain à manger tous les jours, j'ai faim, pas de maison, de mur de pierre, et je demeure à même la terre. Toi tu es malheureux comme tout, on ne t'aime que pour tes sous. Soulage-toi, libère-toi de tes avoirs et tu verras plus de soldats, de tours de garde, de serrures, de codes en cascade, de coffres forts et de vigiles pour surveiller Pierre, Paul ou Gilles. Moins lourd, tu seras plus agile. Moi qui demeure à même la terre, je ne connais pas la misère du cœur comme toi tu la connais dans ton château. Tout désenchanté, ma misère viendra te hanter.
Waouh, bravo Nicolas.
C'est
marrant ça. Bravo, un beau texte. Une belle mélodie aussi.
Enfin, je sais pas, ouais, mais c'est la première fois que je la chante. Hein.
Toute nouvelle, inédite. Vous avez la chance, les auditeurs. Ouais. Très bien, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Laurent est absent un instant, mais il nous salue et vous salue. Et passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir, Nicolas.
À bientôt. Merci.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardis.